Bonjour et bienvenue au show radio Minter Dialogue, émission numéro 54. Cette émission est avec un invité spécial, Yann Gourvenec, un grand homme de l'Internet et du web en France. Je connais Yann maintenant depuis plusieurs années. Il est actuellement en charge du web digital et les médias sociaux au niveau groupe d'Orange, donc d'Orange.com. Il a cofondé également avec mon ami Hervé Cabla l'association Media Aces, une conférence qui regroupe beaucoup de personnes in the know du web en France. C'est un homme qui a toujours une opinion, généralement bien tranchée. Bonne écoute. Allô, bonjour et bienvenue sur l'émission radio téléchargeable Minter Dialogue, où on parle des marques, de l'Internet et les nouvelles technologies. Je suis Minter Dial, votre compère pour cette émission radio téléchargeable, autrement dit un podcast. Je suis auteur du blog MinterDial.fr, où vous trouverez les show notes pour l'entretien qui suit, avec l'ensemble des sites et des liens cités dans l'émission. Si vous lisez anglais, j'ai également mon blog en anglais, themindset.com, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T. Plongeons alors dans cette nouvelle émission de Minter Dialogue. Bonjour et bienvenue au show radio Minter Dialogue. Cet après-midi, je suis avec Yann Gourvenec. Alors Yann, c'est quelqu'un que je connais depuis quelques années maintenant. C'est le fondateur avec Hervé Cabla de Media Aces. C'est un grand patron du digital, du web chez Orange. Et donc je suis très content de l'avoir avec moi sur ce show. Donc Yann, est-ce que tu peux te présenter plus précisément à l'audience?
Bonjour Minter. Oui, en fait, je suis directeur internet et médias sociaux chez Orange dans le groupe. Voilà, j'avais quelques années que je fais du web, 16 ans exactement. Voilà, j'ai créé mon premier site, j'ai travaillé par le passé chez Unisys, chez Capgemini, un peu partout, en France, en Angleterre, Moyen-Orient, un peu partout dans le monde.
Et tu as aussi un blog, n'est-ce pas?
Oui, alors mon blog, c'est visionarymarketing.com. Enfin, ça, c'est le site web en fait qui envoie. Après, j'ai plusieurs blogs, j'en ai en français et en anglais. Il s'appelle Marketing et Innovation, mon blog français. Voilà.
Voilà, parce que c'est quelque chose, parmi les choses qui sont super intéressantes chez toi, c'est que tu es quand même biculturel. En tout cas, tu as une aise incroyable en anglais qui est très appréciable. Alors, je voudrais parler de Media Aces. Donc, quelle était l'origine de Media Aces et parle-nous de l'évolution de cette conférence.
Ah, Media Aces, déjà, c'est pas Media Aces, il ne faut pas se tromper. C'est les as des médias. Alors, ce n'est pas pour faire prétentieux qu'on l'avait nommé en anglais, c'est parce qu'on a essayé de commencer l'association en Angleterre. Puis, pour des raisons X et Y, c'était très compliqué en Angleterre. Donc, en fait, on s'est rabattu chez nous. En fait, à l'origine, je suis membre de socialmedia.org, ce qui à l'époque s'appelait le Blog Council, puis après, s'appelait Social Media Business Council, maintenant socialmedia.org. qui est l'association américaine en fait des grandes sociétés multinationales essentiellement américaines qui font des médias sociaux. Donc en fait Orange est membre de cela quasiment depuis le début, depuis 2008. Donc au début on était 80 marques quand j'ai rejoint et maintenant on en est plus de 200. Ils ont été tellement gros qu'ils ont été obligés de couper en plusieurs morceaux d'ailleurs. Et en fait, en 2009, j'ai rencontré un certain Olébrius qui s'appelle Hervé Cabla, que d'aucuns doivent connaître. Et Hervé, en fait, m'a interviewé justement pour savoir ce que c'était le socialmedia.org, comment ça se passait, parce que c'est quelque chose qui n'existait pas en France. Et je lui ai dit, effectivement, ça n'existe pas en France. Et c'est quelque chose qui pourrait exister et qu'il faudrait qu'on fasse. Mais bon, moi, je n'ai pas le temps tout seul. Et ben, il me dit, ben, banco, faisons-le ensemble. Et c'était une belle aventure, ça va faire... Ça fait plus de 2 ans maintenant. Ça va faire, on va sur notre 3e année là. C'est un mariage à long terme.
Dans l'entrepreneuriat, 3 ans, c'est fatidique.
Ouais. Non, mais on tient bon la barre. Là, on tient bon la barre. On prépare d'ailleurs des bonnes surprises pour 2012. Donc en fait, on a organisé plein de cycles de conférences. Je ne sais plus, on en était à 10e ou 11e au mois d'octobre. Donc on n'en fait pas des milliers, mais on essaye de les faire bien. En s'appliquant sur les sujets, ce sont des sujets d'entreprise. On ne fait pas intervenir des consultants, sauf de temps en temps, d'ailleurs tu es intervenu toi-même, pour exprimer, faire une présentation visionnaire, mais en général l'essentiel des présentations est faite par des responsables d'entreprise et l'orientation est vraiment très entreprise B2B. Voilà. Ce que j'ai toujours apprécié de Millet et ses enfin, hormis le fait que vous m'avez invité, mais c'est surtout le fait que c'est très opérationnel. C'est des gens qui sont dans le dur, qui sont sur le chiffre, la difficulté interne, la politique qu'il doit y avoir derrière pour essayer de convaincre les gens de les suivre. Et c'est ça qui fait que c'est riche, une riche échange de personnes, tout en étant ouvert. Parce que vous êtes forcément, il y a des personnes qui viennent, qui savent que tout ce qui va être dit va être repris par derrière. Donc ça rend la tâche de trouver des gens qui sont capables de parler avec honnêteté et transparence, parce que tout de suite derrière, ça se produit derrière.
Ouais, bah, je suis content que tu me dises ça, parce que du coup, ça va m'éviter de le dire. C'est exactement ce qu'on voulait faire. Donc ça veut dire qu'on a réussi, c'est bien. Effectivement, c'est pas évident quand on est responsable d'entreprise. J'ai créé une page Facebook, ça a pas marché, on était nuls, c'était pas ça qu'il fallait faire, recommencer. Et c'est vrai qu'on entend ça à Média ici, c'est rare. Hein, en général, on a toujours des histoires mythologiques, très publicitaires, qui racontent en fait, mais en fait, des choses qui ne sont pas la vérité. La vérité de l'entreprise, elle est pas là. C'est beaucoup plus chaotique, mais c'est aussi beaucoup plus intéressant. Il y a beaucoup plus de bénéfices à avoir transpiré un petit peu et fait quelque chose de complexe, puis d'avoir réussi à le faire grossir peu à peu, tranquillement, plutôt que d'essayer de faire des choses merveilleuses. Je ne citerai pas de nom, mais il y a certains buzz avec des ours, par exemple. On croit que c'est gratuit, et puis quand on connaît le chiffre, en fait, c'est plus près d'un million d'euros que zéro. Alors, il n'y a pas de miracle, en fait. Hein. Il n'y a pas de miracle. Donc, c'est ça qui est bien avec Média ici, c'est que les gens sont honnêtes. Et ils expliquent leurs difficultés. Ils n'essaient pas de rouler des mécaniques, mais ils montrent quelle est la vie d'un responsable numérique au jour le jour. Alors, c'est ce qu'on a d'ailleurs écrit dans le bouquin « Les médias sociaux expliqués à mon boss ». On en a vendu 2000 quasiment uniquement par bouche à oreille, donc ça doit vouloir dire quelque part qu'on a réussi. J'étais encore avec la responsable numérique d'une grande société du CAC 40 tout à l'heure. Et j'étais ravi d'entendre dire qu'ils nous en achètent 70 pour leurs employés, parce que pour toute la DSI, parce que ça a marqué, le livre a marqué sur son segment. Alors c'est peut-être pas devenu, on va pas détrôner Monsieur Lévy, hein, je pense pas, ni Victor Hugo, mais bon, on a montré, j'irais peut-être aussi une liberté de ton et une réalité de ton. Ce qu'on écrit là-dedans, c'est 100%. 100% pur sucre. Il n'y a pas de maquillage. Je ne dis pas qu'on raconte tout, parce qu'on ne peut pas non plus tout dire, mais on essaye d'être le plus honnête possible et le plus vrai possible. Voilà. Et puis, puis ça ne marche pas trop mal.
Bah, à la fin du podcast, il y aura une petite offre qu'on va vous dévoiler. Mais enfin, donc... Et l'autre chose que j'apprécie, Média, je voulais aussi dire, juste pour ceux qui écoutent, c'est que c'est aussi un bon moyen de connaître dans le réseautage, de pouvoir, parce que y a le temps de parole, tout le monde parle, mais après, il y a toujours un moment de discours, enfin, de rencontre derrière. Alors, donc, est-ce que tu peux nous parler de ton poste actuel sur Orange?
Alors, donc, je suis responsable du web et des médias sociaux et numériques chez Orange. Donc, en fait, j'ai deux cerveaux. J'ai un cerveau web, entre guillemets 1.0, parce que je pense qu'il n'était pas cassé, le web 1.0. Mais... Et puis, de l'autre côté, un web dit social. Je dis bien dit social, parce qu'on en parle tout le temps. C'est une très grande nouveauté, une très grande innovation. Mais pour nous, on fait les deux, en fait. Et c'est très important pour moi, ça, de pouvoir faire les deux. C'est ce que je faisais déjà chez Orange Business Service. Maintenant, je suis arrivé au niveau groupe. Donc, j'ai une partie qui concerne nos ressources propres, orange.com étant notre site le plus important, plus tous les sites qui arrivent sur ce qu'on appelle notre usine à sites, c'est-à-dire en fait une plateforme générique qu'on offre à l'ensemble du groupe, à tous ceux qui veulent venir pour nous rejoindre, mutualiser les hébergements, mutualiser les sites web, mutualiser les ressources, mutualiser les contenus, mutualiser les développements. Donc c'est une grosse source d'économie, je pense que l'année prochaine on va tous en avoir bien besoin. Et donc, d'autre part, les ressources propres, et ça va aussi pareil sur les médias sociaux, la page, donc le compte Twitter, twitter.com/orange, qui a été démarré au mois de juin. Donc, un peu de retard par rapport à Orange Business, mais on est en train de rattraper rapidement. On est déjà passé les 4300 abonnés là, en à peine 6 mois, donc ça va très vite. La page facebook.com/orange, qui a passé les 130 000 abonnés, donc c'est pas mal non plus. Ça commence à devenir des jolies communautés. Enfin, communauté, il faudrait revenir un petit peu sur ce terme, mais moi, des jolies des jolies communautés entre guillemets. Voilà, il y a d'autres ressources un peu partout. Google Plus, pour l'instant on est plus en mode d'attente.
On Google moins.
Google moins. Ouais. Bon, je peux pas me permettre de dire ça, mais c'est vrai que Google Plus, nous sommes en attente. Voilà, on attend et comme souvent dans les médias sociaux, vous faites poster. On sait que par exemple Microsoft aussi envisage de sortir son réseau social. On sait jamais. Il faut toujours être prudent. Donc toujours être prudent en embuscade et toujours. Toujours être prêt. Donc, on s'occupe de nos ressources propres et de la gouvernance pour le reste aussi. Donc, par exemple, un des documents les plus importants, qui soit notre bible de travail, qui est notre bible de travail en ce moment et pour l'année qui vient, c'est ce qu'on a appelé les social media guidelines, donc le guide de bonne conduite des médias sociaux, hein, qui est disponible sur orange.com/smg, et en français et en anglais. Et ce guide de bonne pratique, en fait, va être notre fil rouge toute l'année pour diffuser cette gouvernance de deux manières. D'une part, au travers des communicants, au travers d'un grand programme de formation au numérique, pas seulement au web social, mais au numérique en général, de l'ensemble des communicants du groupe. Et également vers tous les autres communicants ou pas communicants qui ont, de près ou de loin, développer des compétences dans le domaine du web social et qui sont un peu dans la position du borgne qui veut expliquer à l'aveugle comment avancer, parce qu'on est tous un peu dans cette position-là. Et donc, on va leur donner un package, ils auront un signe distinctif qui permettra de les reconnaître sur leur bureau, on leur donnera des stickers pour mettre sur leurs ordinateurs.
Alors ça, c'est comment on va les reconnaître en interne? Vous avez des moyens de les reconnaître en externe?
En externe, c'est plus facile. Hein. On les connaît déjà. Hein. Alors, en externe, oui. On les connaît déjà. Il y a les modèles classiques des réseaux sociaux classiques, notamment type LinkedIn, hein, qui permettent de voir tous les réseaux sociaux, Facebook y compris, qui permettent de savoir, et les blogs, de savoir qui fait quoi chez Orange. C'est une pratique, d'ailleurs, c'est quelque chose, moi, en tant que blogueur, hein, parce que je suis blogueur également, que j'ai toujours trouvé fantastique, de la part de mes prédécesseurs et de part de l'entreprise, c'est que chez Orange, on encourage les gens qui créent, même en dehors de l'entreprise. C'est quelque chose que je trouve vraiment remarquable. Il y a tellement peu d'entreprises qui savent faire ça que je le dis de toute transparence, c'est pas parce que je suis cadre ici et manager, mais je le dis en tant que, je dirais, principal intéressé, parce que je connais tellement qu'ils se sont fait taper sur les doigts parce qu'ils avaient un blog ou qu'ils n'avaient pas le droit à l'expression. Ici, on a le droit à l'expression. C'est quelque chose de fantastique et qui est vraiment qu'il faut savourer à sa juste valeur. Et donc, on les voit comme ça. Et puis, on les voit aussi au travers d'un outil qui s'appelle Timeline. Orange.timeline.com. Donc, ah pardon, c'est l'inverse, timeline.orange.
Ne t'en fais pas, je vais mettre tout ça dans les show notes. Mm-hmm. Mais pour revenir sur quelques sujets là, le premier c'était, il y a combien de sites qui sont concernés par ce que tu gouvernes, on va dire, parce qu'Orange c'est quand même une grosse société, ça veut dire combien de sites par exemple?
L'ensemble des sociétés du CAC 40 ont cette problématique, l'ensemble des sociétés du monde entier ont cette problématique là, mais dans le CAC 40 peut-être encore plus, parce qu'en France on adore les villages gaulois. Mais c'est bien, c'est un pays de créatifs, donc... Les gens créent des tas de trucs dans tous les coins. C'est ça qui est super intéressant. Et donc, il faut préserver ce côté-là parce qu'il est aussi très positif. Mais en même temps, on n'est pas les rois de la gouvernance. Hein. On n'est pas, je vais prendre une société qui est exemplaire dans ce domaine. Je vais prendre un IBM ou un Cisco. On ne plaisante pas. Quoi. Chez IBM ou chez Cisco, on ne fait pas de créativité ou de fantaisie charmante. On rentre dans le pyjama. Et voilà. Et s'il y a un pyjama à rayures, on met les rayures.
Et on les menottes derrière.
Alors ça, c'est pas moi qui dis. J'aime suffisamment ces deux sociétés pour pas les critiquer. Mais c'est une autre forme de gouvernance. Chez nous, c'est beaucoup plus libéral. Chacun peut faire un petit peu ce qu'il veut. Et c'est un peu comme ça dans toutes les sociétés du CAC 40, hein, en fait. Et donc, moi, ce que je veux faire, c'est amener une gouvernance, mais par la souplesse. C'est-à-dire, j'ai plusieurs façons de faire. Hein. Je veux jamais une gouvernance en disant « c'est la règle ». C'est obligatoire, c'est la police, fin de la récréation, on siffle un coup de... Soit, au contraire, j'essaie de faire ça de façon sympathique et intelligente, et j'offre un service à mes co-employés, mes collègues, mes co-religionnaires. Et donc, c'est exactement ce qu'on fait avec l'équipe. c'est qu'on se transforme peu à peu en société de service, un peu exagéré, parce qu'on n'est pas non plus un sweatshop. Donc, on est, comment on dit, un peu des consultants. Voilà. Et le fait d'avoir fait des choix technologiques en amont, hein, c'était mon travail, et avec, comme je dis, toute l'équipe qui s'est mise, hein, dans les 6 derniers mois, on a choisi une plateforme technologique Easy Publish, au top du top, qu'on a bardé de garde-fous, de licences groupes, de tout ce qu'on veut. Et on a, en plus, en faisant en gérant très très bien le budget au plus serré, donc de façon à l'optimiser, de façon à pouvoir faire un maximum de cadeaux à toutes les entités dans le groupe.
Alors justement, ça concerne combien d'entités ?
Alors aujourd'hui, on a 5 sites web, mais il peut y en avoir. Il y en a un là qui est en train de se faire, qui va se faire. Il faut quand même laisser un peu les projets se dérouler. Qui va être le site de Sofrecom, qui est notre entité consulting. Donc ça, c'est un site qui nous tient particulièrement à cœur. Ça va être super intéressant. C'est l'entité consulting qui traite de tout ce qui est télécom et opérateur dans le monde. Donc, c'est des gens qui vont, n'importe quel opérateur, j'en sais rien, moi, en Iran ou en Ouzbékistan, va avoir, je ne sais pas si on est en Ouzbékistan, mais qui va avoir besoin d'un conseil, va typiquement appeler un Sofrecom pour venir le conseiller. Donc, c'est des gens qui ont des hauts profils. Hein, c'est une société même qui est assez grosse, c'est une filiale à l'intérieur du groupe, ils sont presque 1000, je crois, maintenant. C'est assez gros. Et ça représente beaucoup de choses parce que le conseil, c'est quelque chose de très intéressant pour nous. Donc, moi, mon ambition, elle est d'aller vers, je dirais, peut-être une centaine de sites, me paraît assez raisonnable. Après, il faut qu'on fasse ça intelligemment parce qu'il faut être capable de monter en charge. Hein, c'est être capable d'industrialiser tout ça sans planter les gens. Donc, il faut leur apporter un service. En même temps, il faut assurer. Et ne pas oublier, on a Orange.com. C'est Orange.com, c'est le deuxième site corporate français international. Donc, c'est 40 000 visites jour. C'est plus d'1,5 million de visites mois. Donc, c'est un gros site, quoi.
Je comprends. Alors, parmi les problématiques que tu fais et qui est partagée par beaucoup de monde, notamment les grandes sociétés qui sont internationaux, c'est l'histoire de langue. Donc, tu as le compte Twitter Orange, @Orange, tu as le compte Facebook /Orange. Quel est ton point de vue sur la gestion des langues là-dedans et quels sont les outils que vous utilisez pour mettre en place face à cette problématique?
Ça, c'est très complexe et c'est un poste qui coûte de plus en plus cher parce qu'on traite aujourd'hui en 5 langues, dont certaines langues qui sont faciles, entre guillemets, l'anglais ou le français. C'est tout sauf facile, aussi bien l'anglais que le français, mais bon. D'autres qui sont moins faciles, comme l'allemand. Et puis d'autres qui sont carrément difficiles, comme le roumain ou le chinois. Alors, on a le chinois aussi et l'arabe, mais là, ce sont des sites simplifiés. Donc, y a justement donc, les sites simplifiés, on les maintient moins de fois dans l'année, hein, parce que c'est juste des plaquettes. Enfin, on ne peut pas non plus assurer une présence dans ces langues. Parce que c'est un vrai coût et un vrai poste de ressources important. Parce que non seulement il faut être capable de traduire, mais il faut être capable d'adapter. C'est-à-dire que, bon, moi je fais ça régulièrement en français et en anglais, donc je vois bien dans n'importe quelle langue comment ça peut se passer. Et il faut adapter le contexte. C'est-à-dire que je ne peux pas parler d'un contexte français uniquement en le traduisant en anglais. Et partir du principe que tout le monde comprend ce que je dis. Il suffit que je cite le nom d'une entreprise, par exemple, ou d'une chose qui n'existe pas en Angleterre, et que je le traduise littéralement, et pour que je parte dans une circonlocution qui dure une demi-heure, que de toute façon, j'ai perdu mon auditoire qui va se focaliser sur ce nom qu'ils n'ont pas compris, et qui vont essayer de décoder, et qui ne vont pas y réussir. Donc c'est très difficile, c'est très délicat. Et ce problème-là, on l'a de plus en plus, parce qu'on a, sur ce genre de site, des contenus froids, c'est les contenus habituels qui sont obligatoires, nécessaires, parfois réglementairement obligatoires, dans notre cas, hein, puisqu'on est, une profession réglementée. Ça, c'est les contenus qu'il faut mettre. Voici notre politique, voici ce que nous avons décidé, voici comment nous sommes organisés. Quoi qu'on en pense, il faut l'avoir. Et puis, il y a des mélanges avec des contenus plus chauds, qui sont eux faits pour amener des gens et plus de visites, plus d'intérêt, créer plus d'adhésion à la marque. Et donc, Par exemple, on développe ça au travers des blogs, comme live.orange.com. Et en fait, c'est là que ça devient difficile, parce que faire un blog en français, c'est pas facile. Faire un blog en anglais, c'est encore plus dur. Faire un blog en espagnol et en polonais, ben, c'est encore plus dur.
Alors, donc, pour revenir à Twitter et à Facebook, par exemple, donc, les deux comptes sont essentiellement en français, je suppose, mais comme les deux, enfin, Orange, c'est une marque qui est mondialement connue, comment est-ce que vous traitez la différenciation en langue? Quels sont les outils que vous utilisez derrière, si vous en avez?
Alors, Facebook est un peu plus évolué que Twitter, parce qu'il sait présenter du français au français, du anglais aux anglais, du polonais au polonais. On a beaucoup de polonais sur notre compte, donc des fois on leur écrit en polonais, mais en général on essaie plutôt d'écrire en anglais, qui est la langue de rassemblement, c'est plus simple, plus évident. Voilà. Et puis
sur les comptes... juste pour ça, les gestionnaires de communautés, donc polonaises, françaises, anglaises, etc. Il y a quelqu'un qui s'occupe de chacun, ou comment ça se passe?
Alors, mais en fait, on va pas se substituer au pays. Il n'y a aucun sens à ce qu'une personne en centrale dans le groupe qui ne parle pas polonais s'occupe de la page dédiée aux Polonais en Pologne. Donc au contraire, il faut laisser la Pologne aux Polonais. Et en fait, on est reliés tous ensemble par un ensemble d'outils. La technologie aide aussi. Par exemple, on offre une plateforme d'administration des systèmes des plateformes, aussi bien Facebook, Twitter, LinkedIn et autres, et on l'offre à l'ensemble du groupe.
Il y a une plateforme que vous utilisez qui est propriétaire, ouais, ou vous avez off the shelf?
Il y en a plusieurs qui existent. On en a choisi une sur le marché qui nous convenait mieux que le reste, voilà, et qui surtout a un prix plus raisonnable pour 35 pays, nombre de comptes illimités, nombre de pages illimitées. Donc si on prend Facebook par exemple, la page facebook.com/orange, qui est la page du groupe, donc c'est la page un petit peu plus, entre guillemets, institutionnel, parce que Facebook, c'est tout sauf institutionnel. Mm-hmm. Bon, enfin, c'est un peu ce qu'on appelle le hub. C'est ce qui est un peu au centre du moyeu, quoi, au centre de la roue. Le facebook.com/orange, il fait 130 000 abonnés. Mais dans l'ensemble du groupe, si on ajoute toutes les pages, alors je n'ai pas compté, mais il y en a à peu près 40 qui sont reliées, à peu près. Plus que ça, enfin bon, j'en dis combien, il y en a quelques-unes, et eh bien on arrive à un total de près de 2,5 millions abonnés sur tous nos comptes Facebook. Alors il va y avoir des redondances, hein, je préfère préciser. Et si vous allez sur facebook.com/orange et vous allez dans l'onglet Worldwide, donc mondial, et eh bien vous pourrez voir et aller circuler sur les autres pages des autres groupes. D'ailleurs, c'est un bon moyen d'abord de ramener un petit peu de gouvernance et de. Tout en préservant la créativité et la responsabilisation des entités responsables. Hein. Je ne vais pas pourquoi j'irai me substituer à Stéphane Tardivelle qui fait un super boulot sur le football et le rugby, alors que c'est un expert du sport et que moi, je n'y connais rien. Enfin, si, j'ai joué au rugby quand j'étais jeune, mais bon, on ne va pas
comme y gérer, moi. Quoi.
Voilà. Donc, c'est lui qui est mieux placé pour s'occuper de ça. Et donc, on a cet onglet Worldwide qui nous permet de passer de l'un à l'autre.
Alors, donc, maintenant, on va juste faire un petit topo sur l'avenir. 2012 nous arrive, nous tombe dessus, on va dire, et je sais que, comme d'habitude, Yann, tu as toujours des points de vue bien tranchés. Quels seraient les mots d'ordre, aussi bien, si tu veux, par rapport au Media et 16 ou bien sur orange.com, comment tu vas regarder ça?
Pour moi, la vision, elle est très claire. Alors, je ne suis pas un devin, hein, donc je peux me tromper, hein, mais ce n'est pas grave. Mais dans tous les cas, ça ne change rien, parce que la vision, elle est très claire depuis le début. Avoir un pélo derrière une page Facebook qui fait que ça toute la journée, complètement déconnecté du reste du monde, pour moi, ça n'a aucun sens, ça n'a jamais eu aucun sens et ça n'en aura jamais. Et en plus, dans une période où ça va devenir difficile, donc ça, c'est la partie prédiction, mais je pense que, je suis pas un très bon prophète, mais là, je crois que j'ai pas besoin d'être prophète. Je pense que la situation est très difficile d'un point de vue économique l'année prochaine. Donc, il faut faire des économies. De toute façon, on veut toujours faire des économies. Moi, je suis un breton auvergnat. Je suis près de mes sous. J'aime bien faire des économies parce que je vois pas pourquoi il faut payer plus cher alors qu'on pourrait payer moins cher pour avoir plus de choses. Donc, j'essaye toujours d'optimiser les budgets pour maximiser le profit pour la marque et ce qu'on fait. Donc, l'année prochaine, non seulement ça sera toujours le mot d'ordre, mais ça sera devenu une obligation. C'est-à-dire, si on ne s'est pas organisé pour 2012 pour faire des économies, mais on va patauger et on va ramer et on va ramer. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a investi. Investir, c'est pas dépenser, c'est pas pareil. Investir, ça veut dire, c'est faire une dépense aussi, mais en s'inscrivant dans l'avenir. Donc, on a acheté une plateforme qui est une plateforme générique, avec un hébergement générique, et on a investi également avec un intégrateur qui nous a suivis, et cet intégrateur, on le connaît bien, parce qu'il s'appelle Orange Business Service. Et on les a pas sélectionnés parce que c'est des copains ou parce que ils ont eu
ou parce que tu as travaillé avant.
Parce que j'y ai travaillé avant. Non, pas du tout. Au contraire, même j'avais même dit qu'on ne les choisirait pas parce que, à cause de ça. Et finalement, on les a choisis parce qu'ils sont meilleurs. Et donc, on a créé un bon partenariat avec Orange Business Service autour de Easy Publish, dont ils sont intégrateurs experts. Ils ont, on a une licence internationale, mondiale, pour Easy Publish, Easy System, pour l'ensemble du groupe. Et donc, pour moi, c'est là que ça se passe, c'est cette usine à sites qui va être vraiment le centre de tout. Je pense que ces dernières années, il y a beaucoup de gens, peut-être trop de gens, qui ont dit trop de bêtises. Le web n'est pas mort. Non, c'est pas mort. Donc, au contraire, il s'est jamais aussi bien porté. On a battu des records de commerce électronique. Là, il n'y a jamais eu autant de gens qui ont acheté en ligne. C'est des âneries. Le web 1.0 n'est pas mort. Le web ne s'est jamais aussi bien porté. Et le web social...
Je peux juste, par rapport à ça, tu estimes que l'e-commerce, c'est du 1.0?
Non, mais je veux dire, il n'y a pas... Il faut arrêter cette dichotomie entre web et web social, parce que ça n'a plus de sens, parce que le web social n'est plus une innovation. Ça fait maintenant... ça fait combien d'années que je blogue? Et encore, je n'étais pas dans les premiers. Ça fait 8 ans. Donc, 8 ans que je blogue, 16 ans que j'écris sur Internet. Bon... D'accord, si je vous dis que faire un site web, c'est de l'innovation, vous allez vous foutre de moi. Hein, pourtant, je peux vous dire, faire un site web, je suis en train de refaire le mien en ce moment. Aujourd'hui, en 2012, c'est autrement plus difficile et plus technique qu'en 1996. Il y a intérêt à maîtriser les CSS, et ça, c'est pas de la tarte. C'est vraiment D'accord. compliqué. Mais le web n'est pas mort, parce que, et le web social n'est pas mort non plus, bien sûr. Mais on est en train de... Enfin, il y a eu, parce que c'est comme tous les trucs à la mode, tout le monde est sauté là-dessus, comme la pauvreté sur le monde, pour se recycler et recycler les bêtises qu'ils disaient ailleurs. Et donc, on a du coup scindé le web social, comme si c'était un truc qui fonctionnait sur son île déserte. Mais non, le web social, il fait partie du web. Et le web, il a toujours été social. Hein, je rappelle pour ceux qui auraient raté le premier épisode, net gain, bénéfice sur le net en français, 1997 pour la version américaine, Eagle and Armstrong, 1999 pour la version française. C'est dans les gènes de l'Internet, le contenu généré par l'utilisateur, les liens. Avant, on faisait ça avec des web rings. Bon, maintenant, on fait ça avec des outils beaucoup plus sophistiqués, beaucoup plus élaborés, avec des outils de partage qui sont merveilleux, qui sont super forts, qui demandent des approches à la fois en termes tactiques et en termes marketing qui sont plus sophistiqués. C'est pour ça qu'on a écrit un bouquin dessus d'ailleurs. Mais attention, ce n'est pas pour autant qu'il faut oublier le bon vieux site web et aller mettre tout ce qu'on a sur Facebook. Facebook, c'est très bien. Enfin, ça dépend pour qui, mais c'est très bien. Mais ce n'est pas là qu'il faut mettre toutes ses billes. Au contraire, ce qu'il faut arriver à faire, c'est arriver à socialiser son site web et faire en sorte que les gens puissent partager depuis votre plateforme. Alors, ça, la plateforme en l'occurrence, ça ne sera peut-être pas orange.com. Il n'y a peut-être pas de raison à partager sur Facebook un organigramme de société. Ça n'a pas de sens. Mais par contre, enfin, on ne sait pas, on verra bien. Mais en tout cas, si je peux offrir cette solution à l'ensemble de mes administrés, eux, ils vont y avoir un vrai bénéfice parce que peut-être eux ont des contenus comme nos amis chez Sofrecom ou ailleurs qui vont pouvoir être partagés, alors peut-être sur Facebook, mais aussi peut-être sur LinkedIn, qui est devenu vraiment un monstre au sens... Soit c'est un monstre gentil, donc je suis très admiratif de ce qu'a fait LinkedIn. Et je pense que c'est probablement pour moi le réseau social qui a le plus de valeur aujourd'hui. Pour des gens comme Sofrecom, c'est merveilleux quoi, d'avoir un outil comme ça. Donc il faut sociabiliser le site web. Ça ne sert à rien d'avoir son blog dans un coin, son site web dans un autre, sa page Facebook ailleurs, son Twitter et tout ça, et avec un community manager derrière chaque écran, ça coûte très cher. j'allais dire quelque chose de pas très poli, et ça coûte très très cher, ça n'a plus de sens, et dans une période de crise, on va vous poser des questions à juste titre. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Toutes ces choses-là, il faut les, comment dire, entre guillemets, industrialiser, hein, sans tomber dans la robotisation, mais ça veut dire quoi? Il faut monter en charge. Il faut monter en charge. Pour ça, on a les Social Media Champions, on a les Social Media Guidelines, pour qu'il y ait plus de gens qui participent, timeline, etc. Mais il faut aussi réintégrer tout ça dans le site web. Donc, quand on fera le live.orange.com, qui est notre blog, qui est le blog des événements d'Orange, ben, on l'a commencé par le construire dans WordPress, il est à part, etc. Il est bien, il est même vachement bien monté, puisque maintenant, il est 23e blog marketing en France. Il a commencé 100 millième au mois de juin, 10 millième au mois d'octobre, il est millième blog français au mois de décembre. Donc, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est que ce contenu chaud, on le retrouve dans le site web. Parce que c'est là qu'il y a une vraie logique. Hein, et donc, en faisant ça, j'aurais sociabilisé mon site web, j'aurais montré le chemin, et je pourrais montrer après à Sofrecom ou à d'autres qui voudront nous rejoindre, comment mutualiser ces ressources. Parce que pourquoi payer 100 000 ou 200 000 euros ou 300 000 euros, comme je l'ai vu, pour un micro-site qui va perdre son temps tout seul au milieu de la planète web, alors qu'il peut être intégré à l'intérieur d'un ensemble, bénéficier d'une mutualisation et en plus chez nous.
Bon, je comprends ces choses-là. Et on travaille chez L'Oréal dans le même type de problématique, donc je vois très bien. Mais pour reprendre ce que tu disais, donc il y a le social a toujours été dans l'esprit, on va dire, de San Francisco. Et bien entendu, si on regarde l'ARPANET et tout le reste, on est dans la toile, le net, le réseau, c'est tout que évidemment social. Donc je comprends très bien. Où est-ce que je voulais venir, c'est que s'il y a trois lettres qu'on utilise toujours, c'est so, low et mo, tu mettrais l'ordre, c'est quoi pour toi?
Pour moi, le mobile n'est plus une question. C'est-à-dire que c'est intégration obligatoire, immédiate et automatique.
Mais pourtant, ce n'est pas le cas encore. Je ne dis pas forcément de vous, mais de partout.
Non, c'est ce qu'il faut faire. C'est un travail sur lequel on se penche aujourd'hui de deux façons. D'une part, au travers de la plateforme Easy Publish avec l'intégration automatique, un peu comme on le fait sur WordPress. Quand tu vas sur WordPress, tu arrives sur ton blog sans que tu ne te poses pas la question de savoir quel est le mobile que tu as. Tu as une CSS qui va s'adapter automatiquement à ton mobile. Mais c'est pareil. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est que ton site il puisse se reformater automatiquement avec les bonnes règles de gestion, de façon à ce que ça soit lisible et agréable et fluide, et surtout adapté à ton écran. Et ça, que ce soit un iPad, un iPhone, un Android, tout ce que tu veux, et tous les Windows Phone, etc., et tous les nouveaux qui vont arriver, il y en a de plus en plus, ils sont de plus en plus bizarres. On a vu nos amis de Samsung sortir des formats hybrides, qui est demi-tablettes, qui sont superbes d'ailleurs. Donc tout ça, il faut pas. Moi, je vais pas mettre des ressources illimitées pour gérer ça. Il faut que la technologie soit intelligente.
Donc on est bien d'accord pour le mobile après.
Donc c'est ça. C'était le premier plan. Et le deuxième plan, c'est sur les applicatifs. C'est pareil. Les applis mobiles, il faut surtout pas investir dans une solution. Enfin, moi, je peux pas en tout cas me permettre d'investir dans une solution où je vais faire une appli mobile par device. C'est impossible. Je vais mourir et j'aurai plus d'argent à la fin de l'année. Donc c'est impossible, on va tuer les équipes à faire ça. Puis ça n'a aucun sens, ça ne sera jamais à jour, ça ne sera pas bon, ça ne sera pas bon pour la marque. Donc là, on va travailler avec une petite start-up qui fournit des benches, donc un outil de développement, une sorte de méta-outil pour développer des applications tout mobile. C'est eux qui gèrent la compatibilité et la déclaration dans les Android Market et dans iTunes.
Donc vous allez quand même faire des applis pour les mobiles, enfin des apps spéciales.
Au travers de ce générateur d'applications, et c'est très très facile à gérer. L'essentiel, on essaiera de passer par des flux RSS pour éviter d'avoir des ressaisies. Il faut utiliser la technologie intelligemment. Il faut surtout pas redévelopper des choses qui existent déjà à part.
Donc, je comprends bien, j'ai deux amis qui font ça aux États-Unis, parce qu'en effet, c'est un truc sans fin, des nouvelles plateformes, de nouvelles versions de chaque téléphone, etc. Mais là-dedans, ce que j'entends, c'est deux choses. Hein, c'est utiliser une interface qui va faciliter le développement sur les plateformes différentes, mais de l'autre côté, plutôt s'orienter sur le web mobile qu'un mobile app.
Je pense que c'est effectivement l'avenir parce que le web mobile, je dirais, si je veux une mobile app, c'est très facile. Je crée un raccourci sur le tableau de mon iPhone ou de mon Android.
Ça, c'est plutôt triché, on va dire.
Et j'arrive sur un browser et en fait, je ne vais pas voir la différence. La qualité d'interface des web apps s'améliore grandement et jusqu'à un point où elle arrivera à égaler celle des applicatifs. Je vais prendre un exemple chez des amis et confrères. On va prendre LCL chez Crédit Agricole. Bon, bah, LCL, ils ont une appli maintenant depuis très peu de temps, mais ils ont une appli qui marche aussi bien sur iPhone qu'Android. Et ils ont l'équivalent en web app. Et vous avez exactement la même interface utilisateur, la même expérience utilisateur sur les deux. Que ce soit un Android, un iPhone ou la web app, j'ai essayé les trois et ça marche impeccablement des trois côtés. Donc il y en a un où j'ai besoin de télécharger quelque chose et un où j'ai rien besoin de télécharger, c'est super. Et j'arrive directement par le site web voit que je suis mobile, clac, il m'envoie directement vers la bonne. Donc, moi je crois beaucoup au web app, au développement des web apps. Tout comme Ajax a tué par exemple le client mail. Quand j'étais petit, on utilisait Outlook Express. Maintenant, on utilise un webmail qui fait pareil et mieux. Et on est sur Internet, sur un navigateur. Et ça a été un killer app. Et je pense que ça aussi, ça va arriver dans les mobiles.
Alors, bon, là, ça, c'est sur la partie mobile. Il reste encore le so et low. Qu'est-ce que tu en dis?
Alors, je finirai par low.
Donc on est quand même social encore.
Social, je crois, j'ai déjà réglé. Je ne crois pas au traitement du web social à part, parce que sinon c'est quoi? Je supprime le e-commerce et je vais mettre le e-commerce dans Facebook. Non,
j'y crois pas. Ok. Alors pour d'autres.
Ce qui ne veut pas dire que je ne crois pas à une forme de e-commerce avec Facebook, mais pas d'ailleurs pour tout le monde.
D'accord. Mais de toute façon, ça dépend des objectifs et plein de choses. Si on est Coca-Cola, par exemple, je dirais peut-être probablement intéressant, on va dire.
Mais ça dépend qui tu es, ça dépend ce que tu fais, et puis ça dépend comment tu le fais. Si, par exemple, ça n'a rien à voir, mais quand on a intégré notre web TV d'Orange Business Service dans la page Facebook, j'avais plusieurs possibilités. Je mets tout dans Facebook, bof, tout le contenu que je mets dans Facebook appartient à Facebook. Ah oui, mais c'est mes vidéos. Donc, deuxième solution, je redéveloppe. Troisième solution, j'utilise la technologie intelligente pour refaire un flux qui va dans Facebook, créer dynamiquement. Donc vous allez voir, hein, facebook.com/orangebusiness, vous allez sur la web TV et vous allez voir la web TV qui va s'exécuter directement depuis la plateforme web TV, l'Orange Business Service. Sans rien, on est dans Facebook. On
sans rien céder à Facebook.
Sans rien faire.
Sans rien céder à Facebook.
Sans rien céder à Facebook. Je ne vois pas pourquoi on céderait notre propriété intellectuelle. Et puis surtout, une web TV, ce qui est important, c'est le référentiel. Donc on a gardé notre référentiel, il est à nous. Et surtout, on assure une unicité de contenu dans tous les affichages, qu'aussi bien sur la chaîne iTunes et tout, ils sont tous servis du même serveur. C'est ça qui est imbattable. Encore une fois, la technologie, elle doit être utilisée intelligemment pour éviter la duplication, favoriser l'industrialisation. Hein, si l'ordinateur ne sert qu'à faire des bêtises plus rapidement en nombre supérieur, ça ne sert à rien. Ce n'est pas une bonne utilisation de l'informatique. Donc voilà. Donc pour moi, le social, on lui a réglé son compte. En même temps, c'est quelque chose, ne nous y trompons pas, hein, c'est quelque chose de très important. Mais on parlait des tendances aussi de l'année. Donc je pense que ça fait 5 ans que je fais mon cours sur les médias sociaux. Alors ça s'appelait pas médias sociaux au début, mais... Maintenant, oui. Et au début, je me souviens des tout premiers cours, c'était « Sommes-nous dans une bulle 2.0 ?» Et la réponse, c'était « Nous sommes dans une bulle marketing, mais pas dans une bulle financière. » Aujourd'hui, clairement, nous sommes dans une bulle financière. Quand Foursquare, et on va y arriver sur le local, est valorisé 4 fois Air France, alors que Foursquare soit valorisé fortement, ça, c'est normal. Mais que Foursquare soit valorisé 4 fois Air France, ça,
c'est pas normal. Square, c'est Foursquare, c'est
4 fois. Voilà, c'est ça, ouais. C'est 4 fois, voilà, 4 times Air France. Non, mais c'est pas logique. On revient. Alors après, il y a des gens qui débattent. Il n'y a pas besoin de débattre. On a déjà vécu ce débat en la fin des années 90. Hein, c'est la nouvelle économie, c'est pas la nouvelle économie. Donc je. En fait, il n'y a pas de nouvelle économie, hein, c'est toujours la même.
Donc, si je comprends bien, Facebook à 100 milliards, tu es vendeur.
Facebook a bien entendu beaucoup de valeur, mais je pense que c'est peut-être un petit peu exagéré.
Alors, donc l'année prochaine, on a les élections qui arrivent, donc présidentielles en France comme aux États-Unis d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous dire, clout, oui ou non, l'année prochaine?
Cloud. Alors en fait, moi j'ai voté contre Cloud.
Et donc, est-ce que tu recommanderais, tu irais jusqu'à recommander de vous désabonner, désinscrire et arrêter tout intérêt, ou est-ce que vous pensez encore que ça peut revenir?
Alors non seulement je peux aller jusque-là, mais je l'ai déjà fait. J'ai écrit un article, pourquoi j'ai enfoncé mon Cloud, avec Jérôme Dice. En fait, il y a à peu près un mois, nous avons décidé de nous retirer pour plusieurs raisons. Les changements d'algorithme, le manque de transparence, mais aussi des comportements déviants. En fait, Cloud mesure essentiellement l'activité, donc il suffit de tweeter frénétiquement pour voir son Cloud augmenter. Donc il y a des gens, je vois certains, je ne sais pas comment ils font, je ne sais pas ce qu'ils font de la journée. Moi, je regardais ma moyenne là, avec Twitter Counter, j'ai une moyenne de 5 tweets par jour, ce qui est déjà pas mal. Mais j'en vois, ils en font 100 par jour. Je ne sais pas comment, enfin, je sais pas ce qu'ils font d'autre de la journée, c'est difficile. Moi, j'ai des projets à mener dans la journée, j'ai autre chose à faire. Je ne veux pas être esclave de mon Twitter. J'adore Twitter, c'est un super outil. Mais bon, j'ai autre chose à faire aussi de ma journée. Donc, il faut pouvoir aussi se ménager des pauses. Et alors aussi, en fait, c'est ça qui a déclenché le truc, d'ailleurs. C'est que moi, le week-end et pendant les vacances, par interdit familial, mais interdit familial fort justifié, je ne peux pas me connecter.
C'est je comprends. Alors, si je comprends bien, est-ce que, donc, pour revenir à la question, est-ce que tu décommanderais à tout autre d'utiliser Cloud? Et si oui, est-ce que tu as d'autres sites que tu utiliserais, qui ont Peer Index ou autres, qui seraient pour toi une meilleure option alternative?
Alors, je dirais que tous ces outils n'ont aucune valeur, sauf de vous mesurer par rapport à vous-même. Alors, je mets par vous-même, moi, mon compte personnel, je m'en fous complètement parce que ça n'a aucune importance que je gagne en influence ou je gagne pas. Ça ne va pas me rendre ni plus riche, ni plus beau, ni plus connu.
Oh ben, ben, en tout cas, de toute façon, dis-toi bien que tu es influent.
Je ne sais pas, ça.
Je le dis.
Bon, c'est gentil. C'est aux autres de le dire, déjà. Et puis, c'est terriblement prétentieux de le croire. Donc, si à défaut d'être influent, essayons d'être partageur, c'est déjà ça. Et puis, je pense que donc tous ces outils n'ont pas de valeur parce qu'on peut pas mesurer l'influence. Donc, notamment les gens les plus influents, ben n'ont pas de compte Twitter, ils n'ont pas de compte Facebook, ils n'ont pas de.
Monsieur Obama, il en a, il est assez influent. Enfin, il y a des exceptions quand même.
Monsieur Obama n'a pas de compte Twitter, c'est son équipe qui a un compte Twitter, et lui ne tweete pas, il ne l'utilise pas. Et ça, il ne faut pas perdre de vue. Hein, c'est ça, simplement, il est un peu plus malin que la moyenne, il a su sauter sur l'occasion. Non, je peux te dire.
Son compte a une influence, on peut le dire.
Quand il y a eu les élections américaines, voilà, son compte a une influence, mais lui a une influence, mais son compte n'est pas forcément lui. Il faut le savoir quand même. Il ne faut pas être naïf, parce que quand tu lui poses une question, ce n'est pas lui qui répond. D'ailleurs,
je comprends, j'aimerais bien revenir là-dessus, parce qu'en fait, quelque part, si tu as un compte Twitter, ce n'est pas Orange qui parle, ce n'est pas la marque qui parle, il y a quelqu'un qui est derrière. Donc forcément, d'une manière ou d'une autre, si c'est une personne, c'est une institution qui parle, si c'est une institution, c'est une personne qui parle, est-ce qu'il y a un moyen de faire du gris dedans?
Alors déjà, ce n'est pas une personne, parce que confier un asset, hein, c'est un tout compte Twitter comme Twitter, c'est on construit une communauté, ça devient au bout d'un moment, ça devient un capital pour l'entreprise. Donc comme au même titre qu'une machine-outil ou un comptoir dans une boutique, sauf que ça n'a pas la même valeur, mais en même temps, ça a aussi beaucoup de valeur parce que c'est un outil de communication, donc c'est un outil d'amplification. Donc, c'est un asset de l'entreprise. Voilà. Après, comment on le mesure, ça c'est un autre sujet. Mais toujours est-il que c'est trop précieux pour être confié à un seul employé.
Je comprends. Non, mais je disais ça dans le... Oui.
Non, mais c'est important. Parce que donc, du coup, c'est confié à une cohorte d'employés. Donc, ce à quoi je tiens, quand on crée un compte Twitter, c'est quelque chose que j'ai répliqué plusieurs fois avec mes camarades de la marque, c'est qu'on crée sur la gauche une liste de gens responsables du compte. Et comme ça, on personnalise la relation avec les clients et les followers en général. Mais ça n'empêche que, bon, c'est Alexandra qui répond, mais au titre d'Orange, c'est Orange qui est l'engage, c'est pas Alexandra. Et vice-versa pour moi. Donc on est tous solidaires. Et voilà, on fait partie d'une équipe. Mais c'est, le compte appartient à Orange. Il est personnifié, mais il n'est pas personnisé. Personnalisable, on va dire.
Bon, en tout cas, j'ai un dernier mot pour tout le monde sur le Twitter. Parce que je suis persuadé que c'est... Enfin, pour l'instant, mon constat est que Twitter n'est pas encore... la grande média sociale
Pas en France.
Oui, c'est ça.
Et ça va le devenir cette année.
Et pourquoi ?
À cause des élections. Ce qui a manqué en France, c'est une vedette. Peut-être qu'il n'y a plus beaucoup de grandes vedettes non plus en France, je ne sais pas. Mais on y aurait eu. Enfin, j'aime pas tellement, mais bon, il y aurait eu un Gérard Depardieu, par exemple, qui serait emparé de Twitter. Tout comme Thierry Lhermitte s'est emparé du web dans les années 90, mais maintenant Thierry Lhermitte est moins populaire. Mais ça avait eu un écho énorme, parce que le vulgum pecus aime bien ses leaders d'opinion. En Angleterre, c'est ce qu'il y a eu. Il y a eu Stephen Fry. Et Stephen Fry, en plus, bon, il a un mérite. Non seulement il est aussi connu que Depardieu, mais en plus, il est très intelligent.
Humain et beaucoup d'humour.
Il y a beaucoup d'humour. C'est quelqu'un qui est énormément apprécié, qui est à juste titre, qui est quelqu'un de très fin et très cultivé, et qui a fait Cambridge et tout. Bon, enfin bref, c'est le haut du pavé. Et en même temps, il a su saisir les médias sociaux et inspirer tout le peuple britannique. Et donc...
Qui tu vas sortir pour ça en France ?
Mais justement, je pense qu'il n'y a pas de Stephen Fry en France. Il y avait des grands acteurs comme ça, on en avait, et puis ben, ils disparaissent peu à peu, je pense. On n'a pas de très grands acteurs, je suis désolé. Mais...
Heureusement, il y en a, parce que je vais défendre Daniel Auteuil, pour citer un.
Oh, Daniel Auteuil, oui, il n'est plus vraiment à la page, quoi. Il n'est plus aussi populaire qu'il l'a été. Ah oui, bien sûr, oui. C'est justement ça. C'est des acteurs de cette trempe-là qu'on a du mal à voir émerger aujourd'hui.
Alors, donc, si Twitter va ressortir l'année prochaine, il y a les élections. Voilà. Qui est-ce que tu vas essayer de nous amener ?
Les élections ont créé un tel bruit autour de ça. Il ne peut plus y avoir une émission télé aujourd'hui sans qu'il y ait un fil Twitter pour poser les questions. Donc, je n'ai pas besoin encore d'être grand clair pour dire que 2012 va être l'année Twitter en France. Ça va être un décollage fantastique. Il faut s'y préparer. Ça va être dur aussi parce que du coup, les sujets vont changer. J'ai eu un article à ce sujet qui disait « Twitter envahi par les ados, et les influenceurs se réfugient chez Google+. » Mais qui est pas mal d'écho. Je vais interviewer à la radio suisse romande pour ça. Et je pense que c'est quelque chose qui va arriver. Du coup, les influenceurs vont avoir... Les gens qui sont un peu les blogueurs qui bloguent sur les blogueurs qui bloguent vont avoir plus de mal. Parce qu'ils ne vont plus se retrouver. Ils vont plus se retrouver
Dans un petit écosystème.
Voilà, ils vont se retrouver en minorité. Ils vont se retrouver dépassés par des célébrités ou des gens qui font partie du monde médiatique.
C'est aussi, enfin, si je prends de recul, enfin, moi je suis entièrement d'accord avec toi, et notamment tiré par le politique, alors que bon, mis à part la ministre, secrétaire, pardon, NKM,
elle a arrêté.
Ah, c'est qu'elle a arrêté. Wow. Bon, bah, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas tant de personnes.
C'est Besson maintenant qui a repris.
On verra. D'accord, je comprends. Mais après, je ne vois pas encore les personnes qui vont le faire. Mais je pense en effet qu'il y a une démocratisation qui doit se faire par quelqu'un qui est un leader d'opinion quelque part.
Et ça va se passer un peu comme aux États-Unis. À mon avis, chaque candidat va avoir son compte et il va y avoir une bagarre. Enfin, je suppose. Hein. Mm-hmm. Je suppose. Pas plus que Obama n'a ouvert un compte Twitter, Nicolas Sarkozy n'ouvrira un compte Twitter. Hein, mais il le fera quand même. Mais ce n'est pas lui qui le fera. Pas plus que Obama. Encore une fois, il ne faut pas être naïf.
Ça, de toute façon, dans la politique, je pense qu'on est bien d'accord. Bon, Yann, je te remercie beaucoup pour ce temps. Le prochain rendez-vous de Midiay, c'est pour quand ?
Alors, le prochain rendez-vous, si mes souvenirs sont bons, c'est le 6 mars. Et alors, donc, avec Hervé Cabla, donc mon co-animateur, on s'est beaucoup creusé la tête. Et en fait, on s'aperçoit que si on fait la énième conférence sur les médias sociaux, répéter toujours la même chose, on trouve que ça tourne un peu en rond, tout ça. Et donc, la question, on va la poser, on va mettre les pieds dans le plat. Hein, est-ce que c'est la fin des médias sociaux? Voilà.
Donc, l'année 2012, est-ce que c'est la fin des médias sociaux? Alors, j'ai promis au début avec Yann de remettre une offre surprise à l'issue du podcast. Et l'offre surprise, c'est deux livres des médias sociaux expliqués à mon boss. Alors, ça va aller aux deux premiers commentaires qui sont émis sur le blog minterdia.fr. Et est-ce que je peux te demander de les signer, Yann? Ça peut aller?
Et je pense que je peux le faire.
Ouais, d'accord. Bon, mais Yann, je te remercie beaucoup. Un dernier mot pour 2012?
Oh, bien, bonne chance à tous et puis une bonne année et qu'elle soit heureuse. Et puis voilà, les difficultés un jour seront derrière nous.
Bon, ça s'écrira dans l'histoire. Je te remercie beaucoup.
Merci de nous avoir rejoints sur cette émission de Minter Dialogue, le podcast du digital marketing en français. Vous trouverez les show notes sur minterdial.fr. Vous pouvez également vous souscrire à mon show Minter Dialogue en français sur iTunes, où vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'Internet en France, dont des personnages comme Vincent Ducret, conseiller Internet au gouvernement et créateur du Hub Forum, Jacques Lande de Laura Merlin, Marc Rougier, président et cofondateur de Scoop.it, Gilles Barbier, PDG de Dimaou, ou encore Eric Blot, PDG d'Awakit. Sinon, vous pouvez me suivre sur mon tuto français, MDIALFR ou bien sur MDIAL où je tweet en anglais. Enfin, vous pouvez aussi me retrouver sur mon site anglophone themindset.com themindset, où j'écris sur les enjeux des marques et le digital marketing. Faites du podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique, c'est mobile. S'il vous plaît, partagez ou tweetez si cette émission vous a plu. Bonne continuation, où que vous soyez en train de l'écouter.
You've got questions, we've got answers. Business leadership, ownership, and sales can be challenging. Tune into the Accelerate Your Business Growth podcast to learn from the world's experts. Join me, your host, Diane Helbig, as I chat with people who have expertise in various areas of business. You'll enjoy the lively conversations that are focused on providing you with the ideas, tips, and suggestions you need to realize greater success. Get what you need for your business when you need it from the people who have the answers. Accelerate Your Business Growth is part of the Evergreen Podcast Network and is available on Apple, Spotify, or wherever you listen to your favorite podcasts.